CFM Cahors, le mag.
Bonjour et bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. Si vous avez un chien qui est déjà assez âgé et vous comptez en reprendre un, parce que vous avez peur du moment où il va partir et de vous retrouver toute seule, par exemple, ou tout seul, eh bien sachez que il y a une certaine manière pour accueillir ce chien nouveau avec l'ancien. C'est ce que nous verrons dans cet extrait de l'émission Pense Bête que nous écouterons en deuxième partie d'émission avec Mélanie Casanova qui est éducatrice canin. Mais dans un premier temps, tout le monde le sait, du côté de Bégousse, le hameau qui est à la sortie de Cahors sur la route de Villefranche va se bâtir l'Institut des jeunes aveugles. Qu'est-ce qui va s'y passer et pourquoi avoir choisi Bégousse? C'est effectivement le premier entretien de ce magazine. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est l'heure du mag. Depuis quelques temps, on le sait déjà, il y a un bâtiment qui va se construire dans le hameau de Bégousse à Cahors. C'est l'Institut des jeunes aveugles qui va construire son bâtiment. Alors vous posez peut-être des questions, à savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va trouver et qui va être là-bas. Eh bien c'est l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse qui est avec nous et qui va répondre avec Jocelyne Masse. Bonjour Madame Masse.
Bonjour.
Vous êtes dans le cadre de ce qui nous intéresse parce que vous avez plein de fonctions dans cet institut, mais là vous êtes surtout le responsable du développement des projets. Donc là, effectivement, c'est un gros projet. Mais d'abord, avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous dire qui est l'IJA, l'Institut des jeunes aveugles ?
Alors, l'Institut des jeunes aveugles est une fondation qui a été créée en 1866 et reconnue d'utilité publique. Donc, qui a eu toujours, dès l'origine, pour mission l'accompagnement, l'éducation, l'instruction des personnes aveugles ou déficientes visuelles.
Alors, il y a une différence entre les personnes. On fait très, très rarement la différence, d'ailleurs, entre personnes aveugles et personnes malvoyantes. Ce n'est pas le même handicap, mais ça reste à chaque fois un handicap très préjudiciable.
Tout à fait. Alors après, c'est sûr qu'en fonction du degré de déficience visuelle, une personne qui est aveugle à la naissance aura beaucoup plus de besoins d'accompagnement, de développer certaines choses dans la mesure où énormément d'acquisition, d'apprentissage, que ce soit scolaire, dans le quotidien, passe quand même par le canal visuel. Tout en sachant que nous accueillons aussi, et ce sera aussi le cas à Cahors, des personnes qui ont la double déficience sensorielle, donc déficience visuelle et déficience auditive.
D'accord. Alors votre rôle à vous, justement, c'est que vous avez déjà combien d'établissements ?
Alors, notre souhait et notre choix, c'est d'être mono-établissement avec, sur notre cœur de métier, la déficience visuelle. On ne souhaite pas partir dans tous les champs du handicap pour rester pertinent dans celui que dans le champ de la déficience visuelle. Donc, on a un établissement sur Toulouse, on a une antenne dans à Montauban, donc dans le Tarn-et-Garonne, et une antenne dans le Tarn, tout en sachant qu'on va bientôt ouvrir une antenne dans l'Aude pour l'accompagnement des enfants. On gère aussi au-delà des enfants, avec ou sans handicap associé, parce qu'on a des enfants qui sont donc aveugles, déficients visuels, avec des troubles autistiques, des déficiences intellectuelles légères, moyennes ou sévères. Et on accompagne à peu près 130 enfants également en scolarité en milieu ordinaire.
Ce sont des établissements qui sont où les personnes, les résidents, ils sont H24 ou ce sont comme des écoles, on arrive le matin, on repart le soir?
On a une des caractéristiques de notre établissement, c'est de proposer toute modalité d'intervention. Pour nous, l'idée, c'est que c'est pas aux personnes et aux familles à s'adapter à l'établissement, et donc au fil du temps, l'IJA s'est adapté aux besoins des personnes. Donc on a des enfants qui vont être scolarisés en milieu ordinaire et les professionnels vont faire des interventions une, deux fois par semaine. Ils vont venir éventuellement une demi-journée à l'institut parce qu'ils auront besoin d'apports spécifiques sur les déplacements, sur d'autres objets. D'autres enfants qui auront un peu plus de besoins vont pouvoir venir un jour, deux jours par semaine. On a des enfants qui sont internes de semaine, d'autres qui vont dormir une nuit, deux nuits. On est tout mode d'accompagnement. Et c'est un peu ce caractère qu'on veut pouvoir donner aussi au foyer du Lot.
Dans Institut des jeunes aveugles, il y a le mot jeune. Ça veut dire que vous consacrez à une certaine tranche d'âge ?
Alors, historiquement, c'était effectivement le public enfant, tout en sachant que sur le public enfant, dans le champ du handicap, c'est 0-20 ans. C'est pas 18 ans, c'est 20 ans. Alors, historiquement, donc, c'était pour les enfants, d'où le nom Institut des jeunes aveugles. Mais nous gérons également un centre de rééducation professionnelle et un centre de préorientation pour des personnes aveugles. Centre de préorientation, donc c'est pour des adultes, avec une notification de la maison départementale des personnes handicapées, qui va orienter vers l'IGIA des personnes déficientes visuelles ou aveugles pour trouver un projet professionnel, accompagné dans l'élaboration d'un projet professionnel, donc sur une durée de 3 mois. Et le centre de rééducation professionnelle, c'est pour proposer un accompagnement pour des personnes qui seront rentrées en formation ou qui auront besoin d'acquérir de l'autonomie, des outils de compensation à la déficience visuelle, que ce soit l'informatique, que ce soit les déplacements, pour pouvoir entrer en formation professionnelle. Donc on est déjà inscrit dans le champ des adultes depuis un bon nombre d'années. On gère également une entreprise adaptée. Sur un volet canage-paillage, notamment avec 5 professionnels déficients visuels ou aveugles, et une autre activité transport et tapisserie en ameublement. Donc cette entreprise adaptée accompagne, salarie 25 personnes en situation de handicap. Donc la question des adultes est présente depuis un moment quand même.
Alors, sur la route de Villefranche, dans le hameau de Bégousse, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste après le quartier de Terre Rouge à Cahors. Vous avez décidé donc de construire. Pourquoi ce choix d'abord de Cahors ?
Nous avons répondu à un appel à projet du conseil départemental du Lot en 2019, donc pour lequel nous avons été retenus. Et suite à des contacts avec le conseil départemental et la mairie de Cahors, ce terrain nous a été proposé. Mais la question de la ville de Cahors, c'était aussi... ce projet, en fait, il date depuis 12 ans pour nous. Donc, comme je vous disais, on accompagne des jeunes. Et pour des jeunes qui relèveraient du foyer, on avait tout un groupe de jeunes et des familles qui étaient assez dépitées de l'orientation de leur enfant, dans la mesure où il n'existait pas d'établissement spécifique et seulement dans le champ de la déficience visuelle pour leurs enfants. Et donc, quand ils partaient, il y avait des pertes dans l'autonomie, il n'y avait plus d'apprentissage de braille pour certaines personnes avec des handicaps associés qui mettent beaucoup de temps dans ces apprentissages et tout s'arrêtait à 20 ans. Donc, des familles nous ont sollicité pour travailler sur un projet établissement adulte et avec une dimension très inclusive inscrite dans la cité. Donc, c'est vrai que quand on a répondu à cet appel à projet, on s'est dit, mais Cahors, c'est vraiment une ville à taille humaine. On a découvert ensuite que le tant du point de vue du conseil départemental que de la mairie, avec des valeurs fortes qu'on partage. Donc pour nous, vraiment, c'était une évidence avec des circulations bus, train qui permettaient de l'accessibilité et à des personnes de retourner chez elles le week-end si elles le souhaitaient. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne souhaitait pas un établissement dans qui n'est pas toutes ces infrastructures.
Alors, qu'est-ce que ça va être comme bâtiment ?
Alors, donc, les bâtiments. Donc, là aussi, on, en accord avec les familles et les personnes qui ont participé à l'élaboration du projet, on voulait des bâtiments qui illustrent le projet, c'est-à-dire des bâtiments qui permettent une vraie inclusion, qui s'inscrivent dans une dynamique territoriale, dans le quartier. Donc, on a un premier bâtiment qui donne justement sur la départementale de Villefranche, c'est l'espace social, donc avec un bar, une salle de restauration, des salles d'activité qui seront ouvertes aux habitants du quartier et une salle de spectacle culturel qui seront ouvertes aux habitants du quartier. Et plus on va vers le fond du terrain, plus on va vers l'intime et vers les logements, hébergements. Donc, en dessous, il y aura un pavillon avec 3 unités de 12 inscrites là sur le terrain. C'est un terrain avec une forte pente. Donc, il y a une des unités qui sera en sous-sol et avec 2 unités de 12 au-dessus. Et ensuite, au fond du terrain, il y aura 4 maisons allant du T1 au T5, il me semble, pour permettre là aussi un parcours d'autonomie pour les personnes en situation de handicap. Et phase ultime, après un meilleur apprentissage de l'autonomie dans ces maisons, nous avons pour projet, enfin, c'est inscrit dans le projet, d'avoir des appartements dans Cahors, pour permettre à des personnes de vivre avec un accompagnement de notre part, mais de vivre au sein d'une ville en totale autonomie.
Alors, Jocelyne Masse, vous organisez à l'IGA très régulièrement des réunions avec les habitants du quartier. Alors, pourquoi cette démarche? Est-ce que vous avez peur qu'il y ait une opposition ou qu'ils ne soient pas rassurés?
Non, je crois pas. C'est une vraie volonté. L'idée de dire que les personnes en situation de handicap n'ont pas à vivre dans de l'entre-soi et que tout le monde a à gagner à cette mixité de rencontres des populations et que si on veut que cette valeur forte de notre projet s'inscrivent dans une réalité, ben c'est en travaillant avec d'autres, quoi. Le projet architectural, à l'origine, on avait une salle de spectacle en interne. Suite à des rencontres avec des habitants du quartier, on s'est dit, mais non, parce que si on s'autosuffit, qu'on a tout au sein de l'établissement, il n'y aura pas cette possibilité de rencontre. Et du coup, comme il y a une salle sur le Bégousse, on s'est dit, on redimensionne notre salle différemment pour qu'il n'y ait pas à 500 mètres de distance la même réponse, quoi. Et de la même manière que samedi 5 février après-midi, on a un travail autour du nom de ce foyer, parce que ce foyer n'a pas encore de nom. Et donc, il y a un groupe de travail de 10 personnes avec 2 représentants des habitants du quartier, parce que on trouve que c'est un quartier très accueillant et on a envie que l'histoire, la culture du quartier soit imprégnée dans l'établissement. C'est une vraie volonté, ça part pas sur de la crainte, ça part sur une envie d'un projet commun.
D'accord. Les travaux de cet institut commencent bientôt, là, j'imagine.
Alors, il y a donc Monsieur Montoriol qui est directeur de l'Institut des jeunes aveugles et le président Monsieur Salbert, le président de la Fondation Institut des jeunes aveugles, sont en lien avec le directeur de cabinet de la mairie de Cahors, Monsieur Coste, et le conseil départemental pour organiser la pose de la première pierre a priori courant mars.
Et pour une fin des travaux, une ouverture qui est donc prévue un an plus tard, j'imagine?
Non, un an et demi. C'était prévu janvier 2023, mais c'est vrai qu'avec le Covid, on a pris un peu de retard. Donc on pense juin 2023.
Eh bien écoutez, en tout cas, nous espérons pouvoir visiter avec vous ces locaux et avec les auditeurs. Et on vous remercie, Jocelyne Masse, d'avoir répondu à nos questions, parce qu'effectivement, un bâtiment qui est construit tel quel, ça mérite d'être connu. Et puis surtout, c'est vrai que ça peut parfois, on peut se poser des questions, les habitants du quartier peuvent se poser des questions, et vous êtes là et vous avez accepté d'y répondre, et on vous remercie beaucoup.
Tout à fait. Et si je peux rajouter un dernier point qui me paraît important par rapport à ça, c'est que il y a vraiment eu un souci au niveau des architectes. C'est pour ça aussi qu'on a eu une réunion avec les habitants du quartier, de prendre en compte si on veut vraiment s'inscrire dans quelque chose en lien avec les habitants. Il ne faut pas qu'on arrive en pays conquis en disant on va faire un RE+3 ou autre. Et il y a vraiment eu ce souci. D'ailleurs, c'est un bâtiment à énergie, alors pas à énergie positive, mais avec une responsabilité bas carbone et autres, qui va vraiment s'inscrire dans le terrain pour qu'il voilà, on ne souhaite vraiment pas que, créer une verrue au milieu du quartier de Bécousse.
Eh ben merci beaucoup Jocelyne Mas de l'Institut des jeunes aveugles. Merci beaucoup.
Au revoir.
Dans un instant, nous allons réécouter une émission, enfin un extrait de l'émission Pense Bête, l'émission de Refuge Canal au Toit, tous les quatrièmes lundis du mois, et en podcast sur cfmradio.fr, où on se posait la question, comment accueillir un jeune chien quand on en a déjà un qui est un peu plus âgé, et comment on fait pour que tout se passe bien. Ça sera la réponse avec Mélanie, éducatrice canin, juste après ce titre d'Étienne Dao, Virus X.
Du haut de Saint-Vincent, les gargouilles nous surveillent. Saint-Malo, rose pâle, se déplie, se réveille. Jeune flamme orageuse, solitaire, héroïque, disperse dans l'océan ses poèmes organiques. L'azur fou de tes yeux m'a lancé un défi, et je lèche le sang de cruels ennemis. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Nul besoin de me contaminer, m'intoxiquer par ton virus X. Virus X, virus X. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus X. Virus X, 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 X. Ton cœur bat la chamade, zigzag, les yeux bandés. J'échappe à l'embuscade, le plus sûr des réflexes serait de vite fait tracer. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus X. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus X. Virus X, nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus X. Du haut de Saint-Vincent, les gargouilles nous surveillent. Saint-Malo, rose pâle, se déplie, se réveille. Saint-Malo, rose pâle, se déplie, se réveille.
Virus X, Étienne Dao. Très bon titre, ça fait plaisir de revoir des nouvelles d'Étienne Dao avec un titre qui est comme celui-ci.
CFM Cahors, le mag.
Tous les quatrièmes lundis du mois sur CFM Cahors, c'est Pense Bête, l'émission du Refuge Canal au Toit, animée par Emma, soigneuse, par Mélanie, qui est éducatrice canin, et puis par Léo, qui est vétérinaire. Des bons conseils pour vivre en harmonie avec votre chien, pour faire face aussi aux problèmes que cela peut poser, et de comportement et de santé, puis aussi l'actualité du Refuge Canal au Toit. On va se faire un plaisir de réécouter un extrait de l'émission du mois dernier, hein, et donc c'était parler concernant l'arrivée d'un nouveau chien chez soi, alors qu'on en a déjà un. On a tous tendance, on voit son chien vieillir, on se dit « ouais, bon, c'est... quand il va repartir, je vais me retrouver tout seul, je vais en prendre un autre, ou alors pour lui faire compagnon, etc. » Comment faire pour intégrer ce chien ? La réponse avec Mélanie Casanova, éducatrice canin.
Souvent, la plupart des gens commencent à penser à prendre un deuxième chien quand ils voient que le chien vieillissant et soit plus trop en forme, il n'a plus trop envie de sortir ou est un peu sur la faim. Donc, pour éviter une transition ou une cassure, ils vont prendre souvent un autre chien et la plupart du temps, un chiot. Donc, ce qui arrive, c'est le chiot, lui, arrive, donc il a tout à apprendre. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça redonne un regain d'énergie au vieux chien. Et du coup, il continue quelques années avec le chiot. Mais la plupart du temps, avec un chiot, il se passe plein d'autres choses et c'est pas forcément une bonne idée, ou alors il faut vraiment y réfléchir à l'avance. Donc il faut d'abord voir l'âge du chien, la compatibilité aussi au niveau des activités, parce qu'un chiot va falloir le sortir plus régulièrement, peut-être que l'autre chien n'a pas besoin d'être autant sorti. Au niveau de la race aussi, le risque là-dessus, c'est si on prend la même race, c'est de comparer le chiot au chien précédent.
Ouais.
Physiquement il était comme ça, quand il était chiot ben, l'autre il était pas comme ça, il faisait pas ça, et c'est un gros risque du coup, même du point de vue éducatif, parce qu'on risque d'être, si on a un chien parfait comme je l'entends souvent, on va le comparer mais lui il fait pas ça, on va être beaucoup plus exigeant avec le chien qui arrive, et on peut lui mettre la pression et parfois vouloir accélérer l'éducation alors que dans son mode de vie et même dans sa progression, le chien n'est pas capable d'enregistrer autant d'informations que le vieux chien. Donc
logique.
Ça, il faut vraiment le prendre en compte.
Ça lui met la pression, quoi.
Ça lui met la pression, et puis il peut pas y répondre parce que il a tout son développement à faire et il y a des choses plus importantes.
Des bêtises, par exemple.
Des bêtises, mais il découvre son monde, donc on peut pas lui demander une obéissance de base comme un chien qui a 9-10 ans. Il y a aussi les besoins. Si on change de race, il faut connaître les besoins de la nouvelle race, mais aussi la compatibilité entre les deux chiens. C'est-à-dire que si on prend un petit chien de compagnie, plutôt canapé, bulldog, il y en a quelques-uns qui n'aiment pas trop sortir quand il fait froid. Et si votre autre chien, lui, était plutôt sportif, peut-être que le petit voudra pas suivre, ou le nouveau voudra pas suivre, ou inversement. Donc il faut voir aussi la compatibilité au niveau des activités qu'on va lui proposer. Donc ça, il faut déjà y réfléchir à l'avance avant de se jeter dans le bain et faire attention à toutes ces petites choses-là. Après, quand on prend un chiot, qu'on a un chien âgé, du coup, il y a trois choses à faire. Bien attention, c'est le jeu. Le chiot ne va pas du tout avoir la même façon de jouer qu'un chien adulte, voire qu'un vieux chien. Un vieux chien, parfois, ne joue plus. Il y en a qui jouent, mais parfois, il ne joue plus.
Comme les humains, d'ailleurs.
Comme les humains. Après, il va y avoir la recherche de contact. Le chiot va quitter sa mère, sa fratrie, donc il va forcément se référer à un autre canidé. Donc là, c'est le vieux chien. Il risque de, ou le chien de la maison. Donc,
canidé, pas canigou. Hein.
Il risque de le suivre partout. Il risque d'être harcelant, en fait. Soit joue avec moi, ou je te suis partout. Et l'autre chien qui était potentiellement seul à la maison va se retrouver avec un mini truc qui le suit partout et il peut du coup le premier chien peut devenir irritable parce qu'il n'a plus
sa tranquillité
du début. Donc on peut avoir des chiens qui se retournent sur le chiot, qui grognent, qui peuvent essayer de mordre pour calmer le chiot. Et c'est là où la famille panique. Ah, l'autre devient agressif et du coup on va gronder celui qui essaye de calmer le chiot alors que ça fait partie de l'éducation. Voilà. Au lieu de prendre le chiot et lui dire arrête de l'embêter, ils vont gronder l'autre parce qu'il lui dit d'arrêter.
D'accord.
Voilà. Donc ça, il faut faire très attention à ces trucs-là, parce que du coup, on va créer un déséquilibre entre les deux. Voilà. À part si le chien attaque littéralement pour tuer le chiot, il vaut mieux laisser faire.
Ah.
Dans ce cas.
Attends, tu peux redire
ça ? S'il grogne, le chien grogne, montre les dents.
Oui.
Dans ce cas, on le laisse faire.
Il s'explique entre eux, quoi. Il lui apprend en fait. Hein.
En fait, c'est comme
il lui apprend les limites.
C'est comme nous avec les enfants, ne fais pas ça.
Bon, enfin, s'il lui saute à la gorge.
Bah après, voilà, tu cales. S'il commence à sauter dessus, à le plaquer au sol et à vraiment s'acharner, là, on retire tout.
Tu sais pas.
Mais ça, grogner, montrer les dents et éventuellement poser la patte sur le chiot, on laisse faire.
Alors ça, c'est intéressant parce que c'est l'erreur que l'on fait tous. Hein.
Oui. Oui, parce qu'on a peur pour
le chiot. Exact,
mais en fait, c'est vraiment un mode de communication et ça apprend au chiot à s'arrêter. Maman chien le fait avec les petits. Donc si le chiot arrive avec un chien adulte, il faut laisser le chien adulte faire, à condition qu'il n'exagère pas.
D'accord.
C'est super important.
Oui.
Après, pareil, quand on prend le jeune chien, on se dit « Ah bah chouette, il y a l'autre chien qui va lui tenir compagnie. » Ça, c'est une grave erreur. Il faut apprendre au chiot, au nouveau chien, à patienter et à avoir de la solitude aussi. Parce que quand l'autre chien disparaîtra, potentiellement il est plus vieux, donc disparaîtra avant, ça va être une souffrance pour le chien qui arrive.
Logique.
Donc, il va se retrouver seul à la maison, et quand vous allez partir au travail, du coup, la solitude n'aura pas été acquise. Et on peut avoir des destructions, des vocalises, de la malpropreté. Donc, ça aussi, ça à prendre en compte. Et il faut anticiper la disparition du vieux chien, puisque ça peut vraiment déboussoler un chien qui arrive à la maison, qui a vécu quelques années avec ce chien-là. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte.
Ouais, c'est toujours un peu compliqué, ça. Hein.
Ouais. L'idéal, si on a un très vieux chien, c'est de prendre plutôt un chien, pas forcément un chiot, mais un chien jeune, qui n'a pas besoin d'attachement autant qu'un chiot. Là où on peut prendre un chiot, c'est si on a un chien qui a jusqu'à 5 ans. Là, tu peux prendre un chiot avec. Parce que du coup, celui de 5 ans, il va avoir encore envie de jouer. Il va encore rester quelques années. Donc, du coup, l'autre sera adulte et ça sera beaucoup plus facile à gérer.
Mais c'est peut-être pas ça, justement, le problème aussi. C'est que si on prend un autre chien qui est un peu plus âgé, qui n'est plus un chiot, mais est-ce que c'est pas justement là que va poser le problème? Parce que le chien, il est déjà adulte et...
Mais après, si tu calcules la vie moyenne d'un chien moyen, qui est environ de 10 ans, le chien a 5 ans, il va vivre encore 5 ans. L'autre, du coup, aura 5 ans si tu le prends chiot. Donc, potentiellement, tu peux accueillir un nouveau chien aussi derrière. Donc, après, à 5 ans, tu vois, il n'a plus besoin d'autant de jouer avec un partenaire. Il peut se poser plus facilement aussi, mais à condition qu'on ait vraiment travaillé cette solitude aussi, quoi. Si on ne l'a jamais travaillé pendant 5 ans, ça ne marchera pas non plus. Ou alors, si on prend un chiot, de vraiment faire en sorte que le chiot ne harcèle pas le vieux chien. Du coup, et qu'il ait son activité à côté. Après, quand on prend un chiot, de toute façon, c'est comme quand on prend un autre chien, on met des règles. Sauf que quand on a un chiot, il faudra être plus sur le chiot. Il faudra le plus lui montrer, non, arrête, il faudra faire beaucoup de répétitions.
Oui, parce qu'en fait, on peut se dire, je prends un chiot, comme ça, c'est le vieux chien qui va tout lui apprendre.
Voilà, il va lui apprendre quelques trucs, mais il va lui apprendre les trucs de base chien. Mais par contre, à s'y coucher, il va pas lui apprendre. Le chiot peut faire du mimétisme, mais c'est à nous de continuer cette éducation-là.
Ouais. Mélanie Casanova, éducatrice canin ici dans le Lot. D'ailleurs, sa page Facebook, c'est Casa Canis. Et vous pouvez la retrouver en compagnie de Emma du Refuge Canal Lotois et de Léo Vétérinaire tous les quatrièmes lundis du mois. La prochaine émission, c'est le 28 février. Mais sachez que celle-là, celle qui a été diffusée, et même les autres, vous pouvez l'écouter également en podcast sur cfmradio.fr, rubrique les émissions. Et vous cherchez Pense Bête, puisque c'est le nom de l'émission. Ce soir à 19h, le mix de Franck Cassis, 20h, Culture France, l'émission qui est consacrée une heure à la variété française, et 21h30, rediffusion de ce magazine, ou plutôt à 17h si vous préférez. Dans un instant, le journal. Merci de nous avoir suivis.